le studio Kalangou. Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices et bienvenue au journal en français. Je suis Rafika Taher au micro. Au sommaire, ce 20 novembre 2023, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a animé hier un point de presse après l'arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA qui a débouté l'État du Niger par rapport à sa plainte. À suivre les précisions dans ce journal. Le ministre de la Défense et de l'Intérieur ont effectué une visite sur le site de traitement d'or appelé Guidandaka d'Arlit. Les conclusions à suivre dans cette édition. Dans la partie magazine consacrée chaque lundi à la rubrique Justice, magistrat explique le rôle de chaque acteur de la chaîne pénale. Le ministre de la Justice a animé hier dimanche 19 novembre 2023 un point de presse relativement à la décision rendue le 17 novembre par la Cour de justice de l'UEMOA. Selon le ministre de la Justice du Niger, par cette décision, le juge communautaire a nié à l'État du Niger tout droit de recours sur le motif que les autorités de ce pays ont été à la source de la situation ainsi créée. Aussi, le ministre Aliou Daouda d'ajouter, je cite, une telle appréciation de la situation est dangereuse en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 18 du protocole additionnel numéro 1 qui prévoit que les recours déformés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Le Niger a célébré hier dimanche 19 novembre la 12e édition de la Journée africaine de la sécurité routière couplée avec la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Le thème de cette journée est « Le respect de la réglementation routière est un acte patriotique ». Dans un message, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salifou Maman Salifou, a révélé des chiffres concernant les accidents de la route au Niger en 2022. Plus de 8500 accidents ont entraîné la mort de 1220 vies, tandis que près de 4000 personnes ont été grièvement blessées et plus de 7500 ont subi des blessures légères. Après la visite des ministres de la Défense et de l'Intérieur sur le problème de sécurité à Arlit, notamment à Guidandaka, le site de traitement d'or, il a été décidé de clôturer l'endroit au lieu de le déplacer hors d'Arlit. Cela peut ramener la sécurité en réduisant les attaques et autres meurtres. Azimzim Al-Husseini, secrétaire général de la préfecture d'Arlit, au micro de Ousmane Oumarou.
Il est nécessaire de sécuriser le site d'orpaillage d'Arlit appelé Guidandaka par une clôture, savoir qui rentre et qui sort, quelles sont les personnes qui s'y trouvent, qui rentrent et qui ressortent, sous la supervision des forces de l'ordre. C'est par rapport à cette situation que le gouvernement a pris cette décision pour que la paix revienne à Arlit. Une fois les propositions transmises, il y a eu des ministres qui sont venus, tels que le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, ainsi que les forces de l'ordre pour valider le plan de sécurisation d'Arlit. C'est à travers ça qu'on a jugé utile que le site d'orpaillage soit clôturé ou déplacé. Mais le site de Guidandaka joue un rôle clé dans l'économie du département. Donc, déplacer ce site n'est pas la solution. C'est ainsi qu'on a trouvé quelques entrepreneurs qui ont pris la décision de faire le travail, sous la supervision de la préfecture, qui s'occupe de la présidence du comité installé, qui va travailler avec la mairie, la direction de la mine, les FDS et le comité du site de Guidandaka.
Cette période de récolte des cultures dans certaines parties du Niger est un moment charnier de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Jeudi dernier, une bagarre entre agriculteurs et éleveurs de la commune rurale de Meijirgi a fait plusieurs blessés. Le préfet du département Salifou Moumouni explique la situation et appelle la population à la retenue. Il est au micro de Seydou Sanké.
Il y a eu vraiment des blessés, des hospitalisés. On a eu même des évacués, mais Dieu merci, on n'a pas eu de pertes en vie humaine, comme beaucoup l'ont entendu. Donc nous avons arrêté les personnes impliquées dans ces bagarres-là. Nous sommes dans l'attente d'un rapport qui va dire exactement de part et d'autre ce qui s'est passé. Les populations doivent arrêter de se faire justice, qu'ils doivent dénoncer et attendre les autorités agir. Donc, se faire justice soi-même est le point de départ où tous ces mots-là surviennent. Parce que vous attaquez, vous tuez, on vous tue. C'est le cycle de vengeance qui continue. Donc, on ne veut pas être dans ça. On met la loi en avant. On laisse les autorités gérer les situations. Et tant que c'est les autorités qui gèrent, c'est que sûr, il n'y a jamais de dégâts ni de diffusion de quoi que ce soit. Donc, nous, on pense que la paix-là n'a pas de prix.
Bonne nouvelle pour les populations riveraines de la Koumadougou-Yobé habituées chaque année aux inondations. Cette année, selon la côte recueillie cette semaine à la station de Bagara, les inondations ne seront pas observées. Seydou Mato, le directeur régional de l'hydraulique d'IFA, explique au micro de Mani Moussa.
L'année dernière, à la même période, le niveau des eaux du fleuve était à 5,25 m. À la date d'aujourd'hui, ce niveau est de 4,85 m. Ça veut dire qu'il y a une diminution de 40 cm. Les eaux sont à un niveau très bas, comparativement à l'année dernière. Nous estimons que c'est à partir du 10 du mois d'octobre que le niveau des eaux augmente et vient avec force pour dépasser Difa et aller jusqu'à Toumour, Bosso avant de se rejeter au Tchad. Cette année, les eaux ne sont pas arrivées avec une force au point de déborder jusqu'à inonder les champs, les habitations et commettre des dégâts, ou même se propager dans la brousse.
Toujours à Difa, le comité international de la Croix-Rouge a procédé à la réception des infrastructures hydrauliques à Méné-Sorowa. Ces infrastructures sont l'équipement et le raccordement à un forage et la réhabilitation du système de coloration du champ de captage de Kongodou dans la commune urbaine de Méné-Sorowa. Le chef de délégation de CICR Difa, Thierry Mugisho, au micro de Maman Idrissa.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau à travers des travaux qui ont été réalisés au niveau du champ de captage et qui ont consisté dans la réalisation d'un forage, l'équipement et le raccordement de deux forages, le remplacement des équipements de chloration, mais aussi la fourniture d'un groupe électrogène d'une capacité de 88 kVA. À ce jour, les résultats atteints, c'est qu'on a réussi tous ensemble à doubler la quantité de la production journalière et ça nous permet de passer de 20 litres par personne par jour, un peu plus de 40 litres par personne par jour, ce qui est une avancée très considérable dont nous pouvons tous être fiers. Et je souhaite surtout que les populations de Méné-Sorowa puissent avoir un changement dans leur mode de vie à travers l'accès à l'eau en quantité et en qualité.
Autre actualité au Niger, depuis quelques années, l'enseignement connaît une régression dans sa qualité. Plusieurs facteurs expliquent cette situation selon le directeur régional de l'éducation d'Ottawa. Le non-respect du temps scolaire est un facteur déterminant dans le système éducatif. Abdou Mamman Namadi, directeur régional de l'éducation d'Ottawa, au micro de Habiba Ahmed.
Il y a beaucoup de défis. Il y a des défis par rapport à la qualité, des défis par rapport au respect du temps scolaire. Or, quand on regarde toutes les évaluations nationales et les évaluations externes, on constate qu'en tout cas, le système n'est pas performant. On constate que beaucoup d'apprenants ne savent pas lire. La situation, elle est là. Il y a beaucoup de paramètres qui l'expliquent. Le plus souvent, c'est le non-respect du temps scolaire. Eh bien, les programmes ne sont toujours pas exécutés à 100%. Avec les grèves des élèves au niveau du secondaire, avec les grèves des enseignants et des vacances anticipées. Or aujourd'hui, c'est difficile d'avoir ces 7 mois de cours sans interruption. Pour résoudre ces problèmes, il faut d'abord agir sur le temps scolaire. Il faudra que le temps scolaire soit respecté par tous les acteurs du système.
Dans la page sport de cette édition, la direction régionale de la jeunesse et des sports de Maradi a clôturé samedi dernier ses éliminatoires dans le cadre des préparations de la 44e édition du sabre national Agadez 2023. Pour Ndela Ali, les 10 jours de compétition leur ont permis de sélectionner 24 lutteurs pour ne retenir que 16 après la mise au vert. Il est confiant bien que Aibo Hassan va manquer à l'appel. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous avons sélectionné 24 lutteurs qui sont jeunes dans leur majorité, qui n'atteignent même pas les 30 ans. Des grands gabarits, ce qui veut dire que les futurs véritables combattants de demain. Nous avons terminé sans problème. La première des choses, c'est de remporter dès cette année le sabre national. C'est des jeunes que nous allons inculquer la discipline pour que ces comportements arrivent en premier lieu d'abord. Nous comptons plus sur la discipline que sur l'aspect sportif. La mise au vert commencera demain, Inch'Allah. Pendant cette mise au vert, il y aura d'abord la PPG, ce qu'on appelle la préparation physique généralisée. Donc la préparation physique, c'est même pas la lutte. Mais il faut que même dans leurs yeux, qu'on sente la force, comme on l'a dit. Il faut qu'elle endure l'activité physique dans l'intensité et dans la durée.
Et en football, la Super League du Niger a démarré ce week-end sur l'ensemble des stades du pays. 17 équipes sont engagées dans cette compétition de l'élite du football nigérien. Cette année, plusieurs initiatives ont été prises par la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Omar Himasoulay, le chargé des compétitions de la FENIFOOT, nous fait le point de ces initiatives au micro de Salamatou Kadri.
Nous sommes aujourd'hui satisfaits parce que c'est un événement que nous avons prévu et que nous venons d'exécuter. Donc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Le public a répondu massivement à l'appel de la fédération. Donc, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des événements qui se passaient dans le temps, que nous avons arrêtés, mais maintenant nous avons repris. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé et nous allons vraiment pérenniser l'événement. Dans un premier temps, c'est le spectacle en lui-même. Les équipes ont produit un bon football. Nous osons croire que ça va continuer pendant toute la saison. Et aussi, nous avons aussi d'autres initiatives que nous allons dérouler au fur et à mesure. Par exemple, c'est le cas pour le joueur. Il y aura un prix pour le meilleur joueur de la journée. Et notre sponsor officiel aussi mettra aussi des prix pour le public, qui se fera probablement au tirage au sort.
Les acteurs de la chaîne pénale sont judiciaires et extrajudiciaires. Chacun dans son domaine de compétence joue un rôle particulièrement éminent dans la manifestation de la vérité. Il s'agit entre autres des enquêteurs du parquet, de la juridiction d'instruction, de la juridiction de jugement, de la maison d'arrêt, des experts et techniciens divers. Attaher Liman, magistrat, explique au micro d'Anissi Karim en magazine.
Monsieur le magistrat, quels sont les acteurs intervenant dans une procédure pénale?
Les acteurs intervenant en matière pénale sont divers et relèvent des structures différentes. Il y a des acteurs qui sont judiciaires et des acteurs qui ne sont pas judiciaires. Maintenant, pour ce qui est des acteurs judiciaires, il y a ce qu'on appelle les organes d'enquête, il y a les organes d'instruction et il y a un organe de jugement. Les organes d'enquête sont constitués par la police et la gendarmerie, mais aussi par la garde nationale depuis un passé récent et par certaines administrations auxquelles la loi a attribué à certains responsables la qualité d'officier de police judiciaire, comme l'administration des douanes, comme l'administration des impôts.
Y a-t-il encore d'autres intervenants en matière pénale?
Et il y a ce qu'on appelle aussi les magistrats instructeurs, qui est chargé de faire la lumière sur les faits délictueux ou criminels dont il est saisi. Et ensuite, il y a la juridiction de jugement. Donc ça, c'est pour ceux qui sont des acteurs judiciaire. Maintenant, pour ce qui est des acteurs non judiciaires, il y a la maison d'arrêt qui est chargée de détenir sur autorisation du juge d'instruction, du procureur de la République ou encore du juge qui a jugé l'affaire. En dehors de ça, il y a les techniciens et les experts qui peuvent être saisis par les différents acteurs intervenants, à savoir les procureurs, la police, la gendarmerie, les juges d'instruction et les juges de jugement. Ils peuvent tous faire appel à des experts.
Quel est le rôle des techniciens et les experts au niveau de la chaîne pénale?
Par exemple, les médecins légistes pour évaluer les degrés ou bien la gravité d'une blessure ou pour s'assurer que l'hymen d'une victime de viol est intact ou il y a eu pénétration. Il y a également des techniciens comme les médecins légistes ou des techniciens en balistique, etc.
Ici se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à Tamnan Foudé Ahmed pour la présentation du Tamachek, suivi des autres éditions en langue nationale. À 18h15, écoutez le forum sur l'impact de la fermeture des frontières sur le commerce à Birninkoni dans une présentation de Nafisa Adamou. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store. Studio Kalangou.